Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Il est 10h07 sur RMC, vous écoutez les grandes gueules du sport ce matin en direct jusqu'à midi avec Pascal Duprat, Denis Charvet, Marc Madiot, Christophe Cessieux. Les grandes gueules du sport qui sont à retrouver, vous le savez, également tous les jours en podcast. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre débat de 9h sur Paris-Roubaix notamment, et pensez à vous abonner au podcast hein, pour ne rien rater. Dans une heure, on va parler du Paris Saint-Germain avec une nouvelle démonstration du PSG cette semaine, direction les demi-finales sans doute. Est-ce que ce serait un échec de ne pas gagner la Ligue des Champions cette saison, vu les démonstrations successives en ce moment du club parisien? 32-16 pour nous rejoindre dès maintenant. Mais d'abord, on va ouvrir le dossier des GG.
RMC, le dossier des GG.
Il reste debout, Chabal. Ouais, il reste debout. Énorme. Énorme, Sébastien Chabal, qui vient de marquer un essai ici sur cette pelouse de Tuikalar.
Ouais, Chabal, il est passé. Il est passé. Il déborde, Chabal. Il est énorme. Il va y aller. Il va y aller.
Et oui, on se souvient, nous, de ces moments. Sébastien Chabal, évidemment, lui ne s'en souvient pas. C'est ce qu'il a déclaré cette semaine. Dans un instant, on va en reparler avec David Broge, neurochirurgien. On sera également avec Philippe Dintrans pour un autre témoignage d'un ancien international de rugby. Mais d'abord, on va accueillir les GG pour ouvrir ce dossier. Nicolas Paul Orsi. Salut Nico.
Salut les GG, salut à tous.
Rappelle-nous les déclarations de Chabal cette semaine. Pour ceux qui ne sont pas au courant, elles ont fait en tout cas beaucoup de bruit.
C'était dans le podcast Légende avec le présentateur Guillaume Play que Chabal a commencé à se dévoiler et à parler de l'impact des commotions subies pendant sa carrière.
J'ai aucun souvenir, et quand je dis aucun, c'est aucun souvenir d'une seule seconde d'un match de rugby que j'ai joué. Je me souviens pas d'une seule des 62 Marseillaises que j'ai vécues. J'en parle à la maison et je dis à ma femme, en fait, je pense que c'est pas moi qui joue au rugby.
Aucun souvenir de match de rugby, mais ces pertes de mémoire n'affectent pas uniquement son passé de joueur.
Et tu te souviens de bons moments quand même de ta vie? La naissance de ta fille, des trucs, tu vois, des moments marquants?
Non. Je me rappelle de pas beaucoup de choses, mais vraiment pas beaucoup. J'ai deux, trois souvenirs de, et d'enfance. Et encore, je suis pas sûr que je m'en rappelle.
Ah oui, si on t'a raconté.
Si on les a racontés.
Chabal poursuit en disant qu'il redécouvrait à chaque fois que ses proches évoquaient un moment vécu, un souvenir. Pour l'instant, il n'a pas consulté de spécialiste.
Et les médecins, t'es pas allé voir un neurologue ou un truc?
Non.
Ça va, non?
Quoi faire? La mémoire ne reviendra pas.
La mémoire ne reviendra pas. Ces déclarations ont touché beaucoup de monde. Ancien entraîneur, ancien coéquipier. Pascal Papé, l'ex-deuxième ligne, par exemple, est bouleversé par la situation de son ami.
Un peu étonné, hein, mais surtout inquiet par rapport aux propos de Seb, par rapport à sa situation. C'est grave, hein, quand même, parce que quand tu te souviens pas au moins de la première Marseillaise, et même au niveau personnel de la naissance de tes enfants, ça m'inquiète. Je me souviens quand même, quand je me remémore mes matchs, j'arrive à me souvenir d'action, ouais. Évidemment, l'après-match, l'avant-match. Bien sûr que je me rappelle de la naissance de mes trois enfants. Je suis inquiet par rapport à Seb, parce que c'est une situation qui est pas normale.
Les déclarations de Sébastien Chabal relancent le débat sur la prévention et le danger des commotions dans le rugby, même si énormément de choses ont été mises en place pour lutter contre ces faits de jeu. Bien sûr, le protocole commotion, les joueurs portent désormais des protège-dents connectés qui préviennent les staffs en cas de commotion. Et puis je termine avec un chiffre. En 2018, une étude publiée sur le site Science Direct recensait qu'en moyenne une commotion cérébrale était subie tous les trois matchs par un membre d'un effectif.
Et ben on va en parler de tout ça, notamment de ce protocole commotion. Merci beaucoup Nico, bon week-end à toi. Pour en parler justement avec nous les GG, vous allez pouvoir lui poser toutes vos questions. L'invité des GG ce matin, c'est le docteur David Broge, neurochirurgien à Toulouse. Bonjour.
Bonjour à tous. Bonjour.
Merci d'être bonjour, avec bonjour. Nous. Vous travaillez en collaboration avec la Fédération française de rugby. Faut juste préciser une chose, hein, c'est que Sébastien Chabal n'a pas consulté, lui, de médecin, et notamment pas de neurologue. C'est lui qui imagine que ces troubles de la mémoire sont dus à ces chocs répétés, à ces commotions. Mais vous qui suivez de nombreux rugbymen, David Broge, le cas Chabal, c'est pas un cas isolé?
Non. En fait, son témoignage, il traduit une réalité scientifique et médicale dont on se doute depuis longtemps, d'abord pour les sports de combat, et puis maintenant ça a pris de l'ampleur parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de sports d'équipe, donc qui ont été pratiqués par beaucoup de gens, peuvent être concernés, quoi. Et c'est la raison pour laquelle, avec la médiatisation de ces questions depuis quelques années, eh bien, il y a de plus en plus de gens qui viennent dans les cabinets de consultation.
Même si il dit, et vous l'avez entendu peut-être aussi, que ça ne sert à rien d'aller consulter, ça ne sert à rien d'aller voir un neurologue.
Est-ce que ça ne sert à rien?
Vous avez sans doute envie de lui répondre à Sébastien Chabal, David Broge.
Oui. Non, parce que déjà, quand on est porteur d'un trouble, ce que j'ai pour habitude de dire, c'est que avoir un diagnostic, déjà, ça fait partie du traitement. De savoir un petit peu ce que l'on a, la sévérité, le profil évolutif, et puis après, effectivement, est-ce qu'il y a des possibilités d'améliorer la situation? Mais je pense que ça peut être quand même intéressant, quoi.
Denis Charvet est avec nous. Denis Charvet qui est évidemment ancien international de rugby.
Une interrogation, cette perte de mémoire, elle arrive comment et quand finalement? Parce que ce qui m'étonne, c'est sa déclaration qui est un peu comme une confession qui vient de nulle part. Et comment il s'est rendu compte? Comment ça arrive? C'est ça qui me trouble un petit peu dans cette interview.
Monsieur Charvet, si vous permettez d'abord, pour que vous ayez tous les idées claires, je voudrais redéfinir ce qu'est l'entité globale du traumatisme crânien du sportif et donc là aujourd'hui du joueur de rugby. Parce que les choses sont assez facilement mélangées. Mm-hmm. Globalement, le sportif qui fait un sport de contact, ou d'impact ou à haute vitesse, il est exposé à trois types d'accidents. Les traumatismes crâniens graves, donc là, derrière, l'ambiance, c'est coma, c'est quel décès. Ok, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Ensuite, vous avez deux autres types de chocs à la tête dont on va parler, là, je pense, ce matin. Ce sont les commotions cérébrales. Commotions cérébrales, donc, c'est un choc qui est suivi de symptômes neurologiques objectivables. Donc, il faut avoir un petit peu d'expérience. Et ensuite, vous avez des symptômes qui apparaissent. Et ces symptômes, en général, ils vont guérir assez rapidement, en quelques jours, quoi. Mais pendant cette période-là, votre mémoire, elle fonctionne pas bien. Et donc, si vous jouez commotionné, eh bien, il est tout à fait possible que vous ne vous souveniez pas du match à la sortie. Ok. Mmh. Je crois qu'il y a un joueur de football.
Je l'ai vécu en tant que joueur, deux fois. Hein.
Voilà. C'est pour ça que j'ai sorti cette anecdote, parce que je sais que ça allait vous parler. Je sais qu'il y a un joueur de la Mannschaft, demi-finale de la Coupe du Monde, se souvient pas du match, quoi. Donc ça, c'est une possibilité que effectivement il ait une amnésie lacunaire satellite de commotion qu'il aurait eu pendant sa carrière. Je vous laisserai m'interrompre quand vous voulez. L'autre question que soulève son témoignage, c'est que le sportif, il est exposé à d'autres chocs qui sont pas les gros traumas, pas les commotions cérébrales. Mais quand je joue au rugby, je suis exposé à des multiples chocs répétés lors des actions défensives, de la participation au ruck, au mêlée ou même le passage au sol. Mmh. Et actuellement, une des questions que l'on se pose tous, c'est est-ce que d'accumuler des petits chocs dans la deuxième partie de la vie, comme il l'est actuellement, Monsieur Chabal, ça n'a pas des conséquences sur mes capacités intellectuelles?
Très bien.
Okay. Mais petit choc, c'est quoi, par exemple, dans la vie
Tu te fais plaquer, ça peut être,
non,
ça peut être un choc.
Il joue plus, lui.
Des chocs qu'il a connu tout au long de sa carrière, voilà. Mais qui n'ont pas occasionné des traumas crâniens qui ont nécessité un protocole commotion. Bah, à l'époque, il n'y en avait pas des protocoles commotion quand il joue au rugby. Mais voilà, c'est ça, ce dont vous voulez parler. C'est un arrêt un peu violent, la tête qui touche le sol, tous ces trucs-là, qui ne nécessitent pas forcément de s'arrêter de jouer à ce moment-là.
Ces questions-là, si vous voulez, elles ont été soulevées par la boxe. Et à un moment donné, on s'est posé la question, on s'est dit, mais un joueur qui n'avait finalement pas fait autant de KO que ça dans sa carrière, à la sortie, quand il arrivait vers 50-60 ans, il y avait une maladie neurologique qui apparaissait. Et donc, on s'est dit, est-ce que c'était pas tous ces petits coups de poing qu'il avait pris sans que ça n'entraîne forcément quelque chose sur le moment? Mais dans la deuxième partie, mon cerveau paye la note.
David Broge, neurochirurgien à Toulouse, qui est avec lui, qui connaît bien les rugbymen.
Le but de la boxe, c'est quand même de provoquer des commotions cérébrales à son adversaire. Ce qui n'est pas tout à fait le cas du rugby, même si un de vos confrères, le professeur Chazal, a écrit un bouquin qui s'intitule Le rugby tue, et il dit que justement, les joueurs ne sont pas du tout protégés, même si aujourd'hui il y a des choses qui ont été faites, mais ils sont pas protégés parce que tu peux te faire plaquer un plaquage par l'arrière, parce que tu n'as qu'un bras pour te défendre quand tu es plaqué par des adversaires, tout ce genre de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, professeur, le rugby est un sport plus dangereux finalement que les sports de combat comme la boxe ou d'autres choses comme ça?
Alors, ouais, ça c'est une question simple pour laquelle c'est difficile de vous répondre de façon manichéenne. Parce que la dangerosité, comment est-ce que vous la définissez?
Oui.
C'est le nombre de morts occasionnées par un sport, le nombre de blessures avec séquelles, mais on parle de quelles séquelles?
On dit que, par exemple, on dit que les anciens rugbyman sont beaucoup plus atteints que le reste de la population par les maladies d'Alzheimer, par exemple.
Je vais vous donner des chiffres, donc.
Ouais.
Donc, il y a effectivement 5 grandes études mondiales qui ont été réalisées sur le sujet. Une sur des anciens joueurs de rugby, une pour des anciens joueurs de football américain et 3 autres ensuite sur des anciens joueurs de football. Et effectivement, ces gens-là, et donc les joueurs de rugby, font plus de maladies neurodégénératives lorsque on analyse leur fiche de sécurité sociale par rapport à la population qui vit dans le même environnement. C'est une étude qui a été faite en Écosse sur des anciens joueurs de l'équipe d'Écosse, donc des joueurs de rugby de haut niveau, et ça a été comparé à la population des îles britanniques. Et ce sur-risque de maladies neurologiques, eh bien, donc c'est x2 à x3 par rapport à la population générale. C'est le même au football américain, mais aussi globalement le même au football tel qu'on le connaît chez nous, européen. Donc c'est très probablement les chocs répétés inhérents à la pratique du sport. Maintenant aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les mêmes études, elles montrent que les anciens joueurs de rugby, les anciens joueurs de foot américain et de foot, ils vivent plus vieux et en meilleure santé que la moyenne de la population française. Ce qui est un des éléments qui tempère quand même ce constat alarmant, c'est que quand vous vivez plus vieux, évidemment, on vous diagnostique plus facilement d'une maladie neurodégénérative, puisque plus vous avancez en âge, plus elle risque d'arriver. Mais il n'empêche que ce chiffre x2 à x3, qui a été démontré que chez des sportifs de très haut niveau, hein, on parle d'internationaux, de professionnels, il existe.
Alors, on est toujours avec David Broge. Merci beaucoup d'être avec nous dans les Grandes Gueules du Sport. J'aimerais qu'on parle aussi des solutions. Et on a parlé de cette évolution dans le monde du rugby ces dernières années. Le fameux protocole commotion qui a été donc rendu obligatoire en 2015, qui a été renforcé et qui impose 3 examens aux joueurs touchés pendant et après le match. Il y a plusieurs niveaux d'évaluation. Il y en a un pendant le match, après un choc. Il y a un deuxième niveau d'évaluation réalisé 3 heures après la rencontre. Un nouveau test effectué 48 heures après. Et à la suite d'une commotion, le joueur ne peut pas revenir avant 12 jours. Est-ce qu'il est suffisant, ce protocole commotion tel qu'il est appliqué aujourd'hui, David Broge, ou est-ce qu'il y a des pistes d'amélioration pour éviter les problématiques que peuvent rencontrer les joueurs de rugby?
Désolé si je fais des réponses trop longues, vous m'interrompez. Alors, pour les commotions cérébrales, comprenez bien que c'est une médecine qui est en train de s'écrire. C'est première description il y a plus de 2000 ans. La médecine s'en occupe depuis 15 ans. Pourquoi ? Parce que classiquement, c'est un problème qui récupère vite et complètement. Mais c'est vrai que de temps en temps, il y a des situations problématiques et c'est la raison pour laquelle la médecine elle s'est penchée dessus. Alors, aujourd'hui, ce que vous voyez sur les terrains, eh bien, traduit un petit peu le dynamisme de la recherche médicale sur le sujet. Donc là, maintenant, on s'est dit, on va enregistrer les chocs. Donc là, OK, c'est effectif depuis cette année. Et effectivement, il y a encore plein de choses que l'on peut faire pour améliorer, Optimiser bien précisément la durée dont a besoin une personne. Parfois, il a besoin de plus de 12 jours. Et donc, comment on peut l'évaluer le plus finement? Accélérer la récupération du cerveau après un tel événement. Donc là, il y a des choses qui sont à l'étude. Mon collègue, Jean-François Schermann, a été pas mal médiatisé sur le casque de lumière infrarouge. Et puis ensuite, effectivement, éviter que ça réapparaisse, enfin, qu'il y ait limiter le nombre de commotions cérébrales en adaptant les règles, la préparation physique, etc.
Ouais.
Parce que c'est ça.
Tant qu'un problème de santé existe, on ne peut pas dire qu'on en fait assez.
Oui, mais on sait aujourd'hui que les collisions, il y a plus de collisions dans le rugby moderne aujourd'hui.
C'est-à-dire que les mecs vont deux fois plus vite qu'à l'époque où ils jouaient, quoi.
Ils sont beaucoup mieux préparés, il y a beaucoup plus de temps de jeu, il y a beaucoup plus de collisions, je le dis, au niveau des impacts. Est-ce qu'on ne va pas être obligé de réduire le nombre de matchs pour chaque joueur? Est-ce qu'on ne va pas interdire de jouer, de faire des entraînements collectifs? Quand j'entends collectif, c'est
les entraînements à haute intensité, dont parle Fabien
pendant la semaine, parce qu'on sait qu'aussi, il y a des joueurs qui attrapent des commotions pendant ces entraînements-là. Est-ce que c'est pas, il n'y a pas quand même une prévention, aller un peu plus loin, quoi, dans la prévention?
Et l'utilisation d'un casque cuir, par exemple?
Alors, le cuir, ça fait rien, il paraît. On m'a demandé.
On m'a demandé à David, là, justement, à David Broge, pour répondre à tes questions et justement aller plus loin sur la pratique du rugby, être encore plus ferme.
Alors, la limitation du volume d'exposition au choc, eh ben oui, c'est une question qui est pleine de bon sens et qui a toute sa place, quoi. Alors, lorsque on parle de sportifs professionnels, eh bien évidemment, nous, les docteurs, il nous faut des gros arguments pour l'opposer aux gens d'en face, c'est-à-dire ceux qui financent ce sport.
Eh oui.
Mais on se dirige vraiment vers là parce que moi, je fais aussi partie du groupe d'experts World Rugby. Et donc, on a une réunion là au mois d'octobre. Et cette proposition, elle est portée par les médecins de World Rugby, effectivement, de limiter le volume d'exposition au choc, ce qui inclut effectivement des semaines d'entraînement sans contact et une limitation du nombre de matchs. Donc ça, nous, on l'a écrit, on l'a porté au board, et avec des arguments
il y a eu des réponses.
Là, c'est en discussion. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'on donne, nous, une durée, une peine planchée, si je puis dire, eh bien, la réponse en face, c'est « Ok, pourquoi, comment vous pouvez me dire scientifiquement qu'il faut faire 12 semaines de rugby sans contact et pas 10 ou pas 14 ?» Donc, voilà. Mais en tous les cas, sur le plan médical, oui, on est assez à l'aise pour dire on a quand même pas mal de données pour limiter l'exposition. Pardon. Au choc.
Christophe,
juste parce que là, tous les cas qui apparaissent aujourd'hui sont les cas de joueurs qui ont évolué dans les années 80, 90, 2000, à l'époque où il n'y avait pas de protocole commotion. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'avec toutes les mesures qui ont été mises en place, on aura dans 10, 20 ans autant de cas qu'actuellement, ou justement ces mesures vont permettre de diminuer le nombre de cas de d'anciens joueurs victimes de problèmes de mémoire, de problèmes au cerveau?
Je ne peux pas vous répondre avec certitude, c'est une équation à trop d'inconnus. D'abord, on ne sait pas l'ampleur réelle du phénomène chez les gens qui ont joué il y a 10, 15, 20 ans. Et aujourd'hui, les mesures qui sont mises en place, on a du mal à en évaluer l'efficacité. Je vais vous expliquer pourquoi, si vous le voulez bien, quoi.
Oui.
En fait, ces athlètes-là qui ont le cerveau qui a souffert d'avoir été exposé à plein de chocs répétés à la tête, eh bien aujourd'hui, ce que fait la médecine, quand un joueur comme Sébastien Chabal passe le cabinet de la porte de consultation, c'est de collecter un faisceau d'arguments pour essayer de relier les troubles qu'il allègue à une exposition répétée à des chocs à la tête, quoi. Mais je suis désolé de devoir vous le dire, mais aujourd'hui, la médecine ne permet pas de poser le diagnostic à 100%. La seule façon qu'on a de dire ce boxeur, ce rugbyman, ce joueur de foot a eu des conséquences neurologiques, c'est une fois qu'il est décédé, quand on autopsie son cerveau. Ça, c'est le film que vous avez dû tous voir, je pense, avec Will Smith. Mais donc, aujourd'hui, lorsque les gens viennent me voir, comme ça, c'est l'une des premières choses que je leur dis. Je leur dis, on va faire un état des lieux le plus poussé qu'il est possible de faire en 2025, mais je ne pourrais pas te donner une réponse formelle. Il y a un plus ou moins haut degré de probabilité. Et donc, pour répondre à votre question, il nous faudrait avoir un examen complémentaire solide pour mesurer l'efficacité des mesures prises. Néanmoins, il y a des choses qu'on va mettre en place et si à un moment vous m'en laissez l'occasion, je vous expliquerai quoi.
Oui. Alors, on aura l'occasion d'en reparler, évidemment. Hein. On va, dans un instant, continuer de parler de tout ça avec le témoignage de Philippe Dintrance. On vous remercie beaucoup, hein, David Broche, d'être passé dans les grandes gueules du sport pour nous éclairer sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci. Vous pourrez retrouver, évidemment, aussi les interviews du docteur David Broche, neurochirurgien à Toulouse, sur rmcsport.fr. Merci beaucoup. D'avoir accepté notre invitation. On continue d'en parler avec Philippe Dintrance, donc je vous le disais, ancien international de rugby, un nouveau témoignage après donc les propos de Sébastien Chabal, toujours avec Pascal Duprat, avec Marc Madiot, Christophe Cessieux et Denis Charvet. Vous restez avec nous, on revient tout de suite dans les grandes gueules du sport.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport.
Alors oui.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Vous écoutez les grandes gueules du sport, il est 10h31. Marc Madiot, Denis Charvet, Pascal Duprat, Christophe Cessieux ce matin. Dans un instant, ne manquez pas les GG contre-attaque. Elles vous ont proposé un débat tout à l'heure à retrouver sur le compte X des grandes gueules du sport. Et pour l'instant, c'est très très serré entre Christophe Cessieux et Pascal Duprat. Là, il y a un duel au sommet, Cessieux-Duprat. Martinez à terre, ça a fait rire Christophe Cessieux et visiblement vous aussi, 33%, devant Pascal Duprat, 32%, qui lui imagine le Real faire une sorte de remontada contre Arsenal pour affronter le PSG en demi-finale de Ligue des Champions.
Enlève le téléphone de Christophe parce qu'il va appeler tous ses amis pour qu'il vote.
Bon, il n'en a plus beaucoup, t'inquiète
Arrête,
pas.
Arrête Christophe, ne triche pas, sois loyal.
Troisième place pour l'instant.
C'est mon team qui bosse là. Mais il bosse sérieusement. Ils font un lobbying
très serré,
incroyable.
Très très serré. Toulon-Toulouse. C'est le choc de ce week-end en rugby en Coupe d'Europe et pourquoi pas un exploit de Toulon. Est-ce que ça serait vraiment un exploit? C'est ce que vous propose Denis, 22% et puis 13% pour il faut des commissaires professionnels dans le cyclisme. En tout cas, la question est posée par Marc Madiot. Bon, un petit peu largué Marc, mais c'est pas grave, ça peut encore, on sait jamais.
Hein. Il faut porter
la beauté du sport, c'est que tout peut arriver. On verra bien. Dans un instant, nous allons accueillir Philippe Dintrance dans les grandes gueules du sport. On a été longuement, et vous pouvez retrouver l'interview évidemment en podcast, avec David Broge, neurochirurgien à Toulouse, qui travaille en relation avec la Fédération française de rugby, pour revenir sur les propos de Sébastien Chabal. Juste avant d'accueillir Philippe Dintrance pour un nouveau témoignage, ancien joueur de l'équipe de France que tu connais bien,
capitaine
également, vainqueur du tournoi des 5 nations.
Plan en 79.
Ah ouais, la première fois que les Français allaient battre les Blacks à l'Eden Park.
On va l'accueillir dans un instant. Juste avant, j'aimerais vous entendre, vous, justement, sur ce débat. On t'a entendu un petit peu, Denis, sur ce qu'il faudrait faire, sur les mesures à prendre, qu'il faut aller peut-être plus loin encore, dans notamment le monde du rugby. Mais Marc, tu nous le disais, il y a aussi des commotions dans le monde du vélo. On en parle peu.
On en parle un petit peu quand même.
Et moins, chutes, en tout cas que dans le rugby. Mais ça existe aussi.
Bien sûr, oui. Et le médecin. Alors nous, c'est un peu délicat parce que on est en course et la course ne s'arrête pas. Donc quand il y a une chute, il faut que le médecin, voire le directeur sportif de l'équipe, prenne une décision ultra rapide d'arrêter ou de ne pas arrêter le coureur. Donc le temps de.
C'est plus compliqué à mettre en place
plus
en
difficile.
Vélo.
Après. C'est un vrai sujet et quand il y a une répétition de commotion sur les coureurs, il faut prendre le dossier à bras le corps et prendre éventuellement la décision de ne
Toi,
pas permettre au coureur.
C'est arrivé justement.
Oui, ça m'est arrivé
récemment,
d'avoir un problème avec un coureur qui a eu plusieurs commotions et devant le risque inhérent à la compétition, on a préféré en rester là au niveau de son évolution, au niveau professionnel.
Ah oui, donc ça c'est effectivement des choses à, c'est comme pour on avait David Broche qui a suivi le cas Willem C, hein, qui a été récemment d'ailleurs, on a prolongé son arrêt, ça faisait 6 mois qu'il n'avait pas joué, prolongement de l'arrêt jusqu'au mois de juin pour Willem C et il n'est pas sûr du tout qu'il puisse rejouer.
C'est pas sûr du tout qu'il rejoue. Beaucoup de disciplines,
ouais. Hein, on a plus en plus.
Même au football,
on a arrêté les têtes
hier.
En sport auto, vous avez Simon Pagenaud qui a eu un choc important en IndyCar, il a toujours pas repris le volant en compétition.
Mais les sportifs de haut niveau sont de mieux en mieux préparés, de plus en plus forts, ils vont de plus en plus vite, donc les impacts sont de plus en plus violents. Ce que l'on constate dans le rugby, on peut le constater dans le ski, on peut le constater dans le vélo. Et si vous voulez, moi ce qui m'interpelle, c'est que pouvons-nous faire sans dénaturer ces sports pour améliorer la santé des joueurs? Dans les équipements des rugbyman, ils sont donc le protège-dents, ils ont le casque, mais que voulez-vous faire de mieux?
Il n'y a pas grand-chose à faire. Le problème, c'est que si tu mets des protèges, tu te protèges partout, ça viendra le football américain.
Mais au football américain, il y a aussi un nombre de commotions hallucinant, malgré les protections.
Malgré les casques et les protections. On accueille dans les grandes gueules du sport Philippe Dintrans. Bonjour Philippe.
Salut à tous.
Merci d'être avec nous. Je rappelle, international français, 50 sélections entre 79 et 90. Vous avez des capitaines de l'équipe de France, triple vainqueur du tournoi des 5 nations. Vous connaissez bien Denis Charvet qui est avec nous. On est avec Christophe
ensemble,
Cessieux, Pascal Dupré et Marc
McGuigan. On a joué ensemble.
Vous avez entendu évidemment tout ce qu'on a dit autour des propos de Sébastien Chabal qui a fait part de problèmes neurologiques, de trous de mémoire. Vous avez joué, vous, donc, dans les années 80, je le disais. Vous avez été victime de plusieurs commotions. Quelles sont les séquelles que ça vous a laissé?
En fait, à l'époque, c'était l'âge de la pierre, quoi. On ne se plaignait pas.
Oui.
Celui qui se plaignait, quoi, c'était ouf. Je vais vous dire deux choses. Celui qui se plaignait et celui qui allait faire de la musculation, ils étaient regardés par tout le monde comme des gars qui font plus que nous, mais avec des matières et des choses d'autres. Vous comprenez?
Donc, tout à fait.
À l'époque, tu as raison. La musculation ne faisait pas partie de notre quotidien.
Et alors, tu as des mecs qui poussaient dans la fonte tous les jours parce qu'ils avaient le temps. Mais il y en a d'autres qui travaillaient. Ils voulaient améliorer leur travail. On travaillait, nous. C'était pas notre travail, le rugby. Quoi.
Et concernant les séquelles que ça vous a laissé, justement, le rugby, vous avez consulté un psychiatre qui vous a parlé, justement, de ces chocs répétés qui auraient pu avoir des conséquences sur votre vie, Philippe Dintrans?
Non, on n'en est pas là, mais aujourd'hui, il s'occupe bien de moi, et je suis en stand-by, disons, parce que vraiment, j'ai des troubles qui sont qui correspondent au mal qu'a, si tu veux, comment il s'appelle?
Chabal.
Chabal, oui, bon. Mais j'en connais plein, des Chabal, dans le rugby français.
Mais Philippe, à l'époque où tu jouais, le rugby était peut-être moins rapide que celui d'aujourd'hui, mais les entrées en mêlée qui étaient plus violentes?
D'accord, alors attends. Je me rappelle de Charvet, il courait de 100 mètres en 35 secondes.
Ouais, mais enfin, lui, il en a pas eu beaucoup, des commotions cérébrales. Hein, il n'y allait pas beaucoup.
Mais c'est des conneries que vous dites là. Parce que on a déjà le rugby de maintenant, oui, ok, ça va vite, etc. Ils ont un fonctionnement beaucoup plus long, je veux dire, dans la durée de l'entraînement, hein, professionnel. Mais bon, nous, le mec, il faisait 11 secondes en 90 ou en 80 ou en 75. Eh bien, bon, bien sûr. Moi, je ne crois pas que c'est ça. Il y a eu d'autres méthodes qui sont arrivées au rugby. Et puis, on fait un peu plus gaffe à la personne, quand même. Mais ça, c'est pour nous, c'est intéressant.
Mais quand tu jouais, Philippe, moi, quand tu étais joueur, est-ce que tu étais conscient des chocs? Parce que les chocs, effectivement, le rugby a changé, mais les chocs de l'époque étaient terribles aussi. En plus, c'était des chocs indirects, souvent, où on avait le droit, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de...
Puis il y avait des entrées en mêlée qui étaient plus violentes qu'elles le sont aujourd'hui.
Il y avait des coups indirects. Et quand je dis coups indirects, c'est des coups de pompe des joueurs. Moi, je l'ai vu, c'était violent. Oui. C'était violent. Oui. La violence, c'était pas la même, en fait.
Oui.
Il faut bien le dire.
C'est ça que je voulais dire tout à l'heure.
Elle n'était pas perçue de la même façon. Mais j'aurais posé la question à Philippe, est-ce que tu es conscient quand même que durant ta carrière, tous ces traumatismes, comment tu le vivais? Est-ce que c'était anecdotique pour toi? Est-ce que ça te faisait peur?
Bon, déjà, j'avais qu'un toubi, pas 50 toubi, et j'avais un toubi qui me regardait le lundi ou le mardi, parce que j'avais des trucs qui ne fonctionnaient pas trop, j'avais mal là. Et puis des fois aussi j'avais mal à la tête, hein, parce que on se mettait des coups de tronche en mêlée, quoi. Alors qui c'est qu'on avait comme gars, écoutez, certains des anciens, comme on voit Papa Rambord, j'ai eu la chance de vous avoir vu, etc. Certains anciens qui vraiment frappaient dur, quoi. Moi, je parlais à Walter Spanghero pendant des heures, des jours. Et bon, ça s'envoyait, quoi.
Non, mais ce qui est effrayant, c'est qu'il n'y avait pas de suivi, en fait. C'est que cette période-là.
Non, parce le danger n'était pas.
Mais moi, j'en ai pris un.
Philippe Dintrance, oui. On vous écoute.
J'en ai pris un pour me suivre. Moi, c'était Pierre Rochat, qui est décédé maintenant. Mais à l'époque, c'était un type qui s'intéressait. Médecine sportive, entraîneur, et il savait qu'est-ce qu'il fallait régler, dérégler. Voilà, quoi. Et il m'a fait des opérations formidables. Formidables. Quand je vois les deux genoux que j'ai skiés, comme j'ai skié cette année, les mecs, ils ne me croient pas. Ils me disent, mais non, alors je m'arrête, je descends mon froc. Et puis il te voit deux grosses balafres, tu vois. Une dans le dos.
Ça ne fait pas des beaux vieux, les rugbyman, hein, Philippe. Hein.
Ah, bon. Mais bon. Si. Ça passait quand même, mais après, là, c'est un peu plus grave, parce que je suis complètement impliqué là-dedans. La cervelle, quoi, ça, j'ai eu des trous, les gars. J'ai eu des trous, même cette nuit, tu vois. J'étais voir jouer le Stadeau, c'est pas pour ça que j'ai eu un trou. Mais j'étais voir jouer le Stadeau, et bon, je suis rentré à la maison. Putain, il me semblait que j'étais rentré avec des filles à la maison. Avec une ou deux, quoi, par 50. Un ou deux, tu vois, une ou deux filles, et j'ai discuté avec elles cette nuit. Alors je viens de le dire à mon psychiatre, et il est comme un fou putain, si t'as des fantômes qui viennent comme ça. Bon, pour le moment, je m'en défais, ça va, mais bon, oui,
vous en rigolez là à l'antenne, mais c'est vrai que dans votre vie, il y a eu des vrais impacts, évidemment.
Non, mais moi, j'ai eu des vrais impacts, et là, je tombe dans une. Je ne m'étais pas plein jusqu'à maintenant trop. Et là, depuis 6 mois, je suis à l'ouest. Denis m'a vu là pour le truc, ouais. À Jacques Fox. J'étais un peu à l'ouest, quoi, tu vois. D'habitude, je suis plus partie prenante avec le groupe, etc. Quitte à diriger un groupe, même pour quoi que ce soit. Mais là j'étais à l'ouest.
Mais en gros, Philippe, tu sais, comme un peu comme si tu avais donné ton corps au rugby, quoi. Enfin, je sais pas.
Ah,
moi.
Mais ça, c'est clair.
Non, mais c'est ce que tu dis était très troublant, et en même temps c'est très courageux, ouais. Parce que tu dis les choses, ouais. Qu'il faut dire pour les autres, ouais. Pour ceux qui arrivent, en plus pour la génération qui arrive, parce que c'est quand même important de parler. Donc c'est bravo à toi de faire ce témoignage là. Ouais. Mais est-ce que tu aujourd'hui tu regrettes rien, en fait? Tu te dis bon, c'est comme ça. Non. Mais
qu'est-ce que je vais regretter, quoi. On a eu que du bonheur quand on jouait. Alors bon, faut pas déconner. Mais là j'ai vu une émission là. Léa Salamé, ça
s'appelle. Léa Salamé, oui.
Léa, ouais, qui finit l'émission, là, avec Nicolas
Demorand.
Demorand, hein.
Oui, présentateur de France Inter.
Il a fait
un
livre.
Il a parlé de bipolarité.
Ouais, voilà. C'est un truc un peu différent, quand même. Ça, c'est pas les mêmes.
Oui, mais ça touche un peu les mêmes symptômes, quand même. Ouais, il y a quelques symptômes qui se rejoignent.
Ouais, c'est pas différent. Le mec, il se retrouve comme moi, là. Je disais quoi au marché Marcadieu le matin, là. Eh, ça va, Philippe, ça va? Ouais, ça va. Il paraît que ça va pas. Alors, on va la partie pour raconter l'histoire. Mais j'allais vraiment mal. Tu vois, c'est pas
moi
comme
j'ai
ça.
J'ai une question à poser à Philippe.
Dernière question avec toi, Pascal Duprat.
Oui,
Philippe Dintrance,
moi j'ai une question à vous poser. Alors, vous venez de dire que vous regrettez rien, et je le comprends. Mais si vous étiez, si vous reveniez en arrière, est-ce que vous joueriez avec un casque aujourd'hui?
Non.
Est-ce que non, sans casque. Parce que pour vous, à l'époque, ça aurait signifié que vous vous défilez.
Non, mais le casque. Oui, enfin, vas-y.
Le casque, bon.
Le casque tel qu'il est, de toute façon, a été prouvé. Il y a des études qui sont sorties, ça ne sert à rien.
C'est pas des casques. C'est pas le casque de pilote automobile ni des casques de coureur cycliste. C'est des casques qui entourent juste la tête,
pourquoi,
mais qui protègent pas.
Les joueurs le portent.
Il faut le porter, mais les épaulettes aussi. Et le truc pour se protéger le sexe aussi. Il y a plein de choses qui sont possibles. Mais bon, voilà, chacun se le voit. Moi, j'étais plus à l'aise. Ça le casque, quoi, tu vois. Bon, comme quand je skie, c'est une grosse connerie. Vraiment, hein. Je le sais. quand je suis,
c'est obligatoire, Philippe, c'est pas bien ce que tu fais.
Non, non, c'est obligatoire pour les enfants.
Non, non, mais il faut dire effectivement,
grand enfant.
Aujourd'hui, il faut mettre le casque, évidemment, quand on fait du ski, c'est très, très important. Merci beaucoup, Philippe Dintrans, d'être venu. Et vous recroiserez sans doute Denis Charvet prochainement. Merci beaucoup d'être passé dans les grandes gueules du sport. On vous remercie pour ce témoignage à retrouver aussi sur rmcsport.fr. Vous restez avec nous dans un instant. Les GG contre-attaque. Qui de ce duel au sommet entre Christophe Cessieux et Pascal Duprat va l'emporter? C'est vous qui choisissez. Vous faites votre choix et dans quelques minutes, on vous dévoile le débat que vous avez choisi. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Vous écoutez les grandes gueules du sport, il est 10h48. Marc Madiot, Christophe Cessieux, Pascal Duprat, Denis Charvet ce matin. Et dans un instant, les GG vont passer la seconde. On va parler du Paris Saint-Germain qui est bien parti pour rejoindre les demi-finales de la Ligue des Champions. Est-ce que ce serait un échec de ne pas remporter cette Ligue des Champions cette année, vu la saison qu'ils sont en train de faire? Mais d'abord, à 10h45, vous le savez, ce sont les GG qui prennent les commandes de l'émission.
RMC, les GG contre-attaque.
Et nous avons eu notre duel serré, notre duel au sommet. Le résultat des GG contre-attaque, les grandes gueules qui vous ont proposé un débat, et quatrième et dernière place, malheureusement pour Marc Madiot. Bon, il a tenté quelque chose avec les commissaires professionnels. Faut-il les imposer au cyclisme? 13%. Tu t'es bien battu quand même, hein. Bravo Marc.
C'est bien. Non mais la prochaine fois je reviendrai Briatore. En plus, je pense que ce serait le moment.
On a gagné une de contre-attaque déjà.
Oui, deux ou trois.
Là, quand même. On devrait interdire les contre-attaques qui parlent du foot.
Ouais.
Ah.
Les contre-attaques trop faciles. Les contre-attaques trop faciles.
Voyons. Bon, troisième place pour toi, Denis. 21% pour ta contre-attaque sur le rugby.
Quelle déception.
Voilà. Est-ce que ce sera un exploit pour Toulon de battre Toulouse? Sans doute. C'est demain. On aura l'occasion d'en reparler.
Alors, le duel des vrais.
Et le duel. Attention, le grand vainqueur, Christophe Cessieux, son débat.
C'est truqué.
34% devant Pascal Duprat, 32% qui voulait imaginer un Real PSG en demi-finale de Ligue des Champions. C'est à toi, Christophe, on t'écoute.
Alors, je sais bien que la vengeance est un vilain défaut et que rien ni personne ne pourra nous faire oublier ce soir de décembre 2022, lorsque ce gardien argentin, presque à lui tout seul, nous avait privé de décrocher cette Coupe du Monde avant, ensuite de nous cracher au visage et de manquer de respect à tout un pays. Mais il n'empêche que je n'ai pas pu retenir un sourire narquois mercredi soir à l'heure où notre ami Dibou Martinez encaissait 3 buts contre le PSG. Oui, le PSG club qui, au-delà de la région parisienne, n'est pas vraiment le plus populaire du pays, a quand même réussi le tour de force de rassembler une bonne partie des fans du football français en battant, non pas Aston Villa, ça les supporters de l'OM de Lyon et des autres s'en fichent, mais en envoyant sur les fesses Dibou Martinez et les fesses dans la luzerne du Parc des Princes. Et ça, je dois dire que c'était quand même sympa. Quel pied de voir l'ennemi public du football français perdre de sa superbe en même temps que son sourire narquois. En l'espace d'une soirée de 3 ballons ramassés au fond de ses filets, le provocateur argentin a goûté à la revanche terrible du peuple français tout en passant une soirée pénible. Alors c'est vrai que sa pauvre mère, à laquelle les supporters parisiens se sont adressés de manière quelque peu déplacée, n'y était pour rien, et que ses oreilles ont dû bien siffler elle aussi, mais bon, elle ne parle sûrement pas français et s'en remettra plus vite que Madame Rabiot. Non, au-delà de la blague et de ce petit sourire en coin que tous les fans de foot en France ont sûrement dû avoir comme moi, je voudrais quand même souligner le talent de ce gardien de
but.
Il a fait un bon match. Par nos confrères de l'équipe,
Ça, c'est ça
scandaleux. Sans doute ont-ils été un peu revanchards eux aussi. Selon moi, il méritait bien plus que cette note moyenne, parce que sans lui, je pense qu'Aston Villa pouvait en prendre 5 ou 6. La seule chose que je regrette finalement, c'est que ce ne soit pas Randal Kolo Muani et qu'il soit fait dégager par le PSG un peu trop tôt dans la saison. J'aurais tellement aimé qu'il lui plante le 3e et ensuite lui donner une petite tape derrière la tête. Bravo mon petit gars, mais bon, cette fois-ci tu vas te chercher au fond des filets. Bon, ce ne sera pas le cas. Dibou ne gardera pas un souvenir merveilleux de son séjour parisien. De toute façon, il ne mérite pas les honneurs de la ville lumière, mais plutôt ceux de la tristesse de Birmingham, sans doute la ville anglaise la plus triste et la plus terne que j'ai jamais vue, que je connaisse. Et par la même occasion, si on pouvait envoyer à Birmingham Arad Schumacher et Marco Materazzi, alors là, ce serait plutôt ça.
Bravo Christophe. Alors c'est quand même un petit peu, ça fait un peu rageux quand même.
Oui, mais bien sûr.
Ça fait un petit peu ça. Si vous êtes aussi rageux que Christophe, c'est sûr, Pascal.
J'ai trouvé une analogie entre Thibaut et Christophe. Ah. Ils sont tous les deux aussi bons qu'ils sont bons.
Ah. Il est bon dans la provoque aussi, ouais, c'est sûr.
Moi, c'est drôle, ça m'a rien fait. Je me suis pas attardé sur lui. C'est vrai. Je suis pour ça. Moi, j'étais derrière le PSG.
Non, pas du tout. T'en as tellement vu.
C'est le supporter qui regarde. Il avait les yeux plutôt
sur la performance.
Voilà, sur la performance. Je
ne
suis pas attardé du tout sur le gardien. Mais bon, attention, c'est un super gardien.
Ah oui, bien sûr.
Gardien. Voilà, après, on l'a beaucoup critiqué pour ce qu'il a fait, mais moi il me dérange pas.
C'est sûr que quand on provoque, comme il l'est, il est provocateur et c'est assumé.
C'est son jeu, mais en plus.
Forcément, mais tu sais, on a droit au retour de bâton.
Tu sais, ce genre de joueurs, ils se nourrissent tout le temps.
Mais tout ça fait.
Ils ne peuvent pas vivre, ils ne peuvent pas vivre leur sport s'ils ne font pas ça. Donc, on en connaît plein.
C'est ce qui fait que certains l'apprécient beaucoup.
Quoique, si on veut être complètement objectif sur le but égalisateur du Paris Saint-Germain, il fait juste avant le but une erreur, une faute de main. Mmh. Et ça donne un corner. Et à l'issue de ce corner, en bout de l'action,
Doué marque le
but égalisateur.
Ouais. Mais par contre, sur les deux premiers buts parisiens, il ne peut rien faire.
Ils sont
inarrêtables.
Moi, je vais aller un peu à l'encontre de ce que tu as dit, parce que quand je vois un joueur, peu importe le match, se faire siffler constamment, j'ai de la peine.
Mais toi, c'est parce que tu es bienveillant.
Je ne sais pas. Il y a un truc qui se passe chez moi et j'ai envie de le soutenir. C'est triste pour lui. Ça fait mal au cœur.
Alors, tu devrais penser qu'au contraire, il se nourrit de ça. Donc il est pas triste.
Il n'est que bonté. Tu comprends.
Mais oui,
je le vois bien comme ça.
Il n'est pas gagné par la sérénité. C'est sûr.
C'était pour ça que t'as dit ça. Toi, tu n'es pas bonté. C'est moche.
Non.
Bon, en tout cas, voilà. Dibu Martinez. On va voir. Faudra pas qu'il fasse le match de sa vie la semaine prochaine.
Oui.
Là, vous l'avez peut-être un peu chauffé.
On l'a un peu énervé. Je pense
qu'il ne faut pas qu'il arrête 8 tirs.
Et d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'on va en parler du Paris Saint-Germain dans un instant. Justement, les GG qui reviennent tout de suite et qui vont passer la seconde puisque le PSG.
Tu as fait fort quand même. Hein. Tu as fait fort. Il faut attendre la dernière heure pour qu'on parle du PSG.
Ça, c'est pas. C'est parce que Drouet qu'on aurait connu ça. Drouet à 9h, c'est pas une ouverture, 9h30, 10h, 10h30.
Le méchant Christophe Cissieux qui s'attaque aux absents, vous avez compris.
On s'attaque pas à moi quand je suis pas là, tiens, bande de salopards.
C'est le mec qui t'a viré quand même, n'oublie pas.
On n'a pas parlé de Kylian Mbappé encore, attention. Le PSG adoubé par toute l'Europe du foot. Est-ce que ce serait un échec de ne pas remporter la Ligue des Champions cette saison? On vous attend au 32-16 pour en parler avec toute la bande des grandes gueules du sport. Restez avec nous, on revient tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.